bienvenue à Chasse et pêche dans la peau, édition radio. Je m'appelle Samuel Gendron et dans la prochaine demi-heure, on va jaser de chasse et pêche. Aujourd'hui à l'émission, dans un premier temps, on va parler de caméras de surveillance pour nos chalets, nos cabanes à sucre et bien sûr nos sites de chasse. Ensuite, on va aller plus loin. Comment ça fonctionne? Quoi vérifier avant d'en acheter une? Et aussi des trucs pour le positionnement des caméras. Tout ça, ce sera en compagnie de Mathieu Caron, président de Herablo Technologies. Il est spécialisé dans ce domaine. J'ai aussi hâte de connaître sa demande spéciale. Restez avec nous, on commence ça après la pause. Je suis accompagné de Mathieu Caron, président de Herablo Équipement. On va parler ensemble de caméras de chasse, caméras de surveillance. On a du pain sur la planche. Mathieu, t'es prêt?
Oui, je devrais être capable de t'aider un petit peu là-dessus. Là. On a quelques connaissances à partager.
Ah ben, c'est parfait ça. C'est l'homme de la situation. Tu es l'homme de la situation. Je voudrais te demander pourquoi quelqu'un qui connaît pas trop ça, là, pourquoi utiliser une caméra de surveillance dans le bois?
Ben écoute, on a différents types d'utilisateurs là en fait là pour les caméras de surveillance. Nous, on écoute, c'est une émission de chasse, fait que c'est sûr qu'on a beaucoup de chasseurs qui sont des utilisateurs de caméras. Mais on a aussi des amateurs de la nature qui vont aimer ça prendre en photo ou en vidéo des animaux. Puis on a aussi le domaine de sécurité qui pourrait s'appliquer dans cette sphère-là. Donc on a trois types de clientèle là. Qui peuvent utiliser ce type de caméra.
Oui, oui. Exemple, moi, j'ai un chalet qui est loin de la maison, puis je veux avoir un œil dessus. C'est un exemple, là, entre autres, là, à part de la chasse.
Oui, c'est ça. Exactement. C'est un autre type d'utilisation qu'on peut faire de ces caméras-là, dans le fond, qui peuvent être utilisées tout dépendamment le moment de l'année à différentes sources, dans le fond.
OK, c'est bon. Puis là, si on parle de nos animaux, les avantages, je vais t'en nommer un, puis d'après moi, tu vas être bon pour m'en nommer d'autres. Pour voir c'est quoi qui passe sur mon site de chasse, premièrement, c'est une des raisons. C'est quel animal passe. C'est-tu une moufette qui fait flasher ma caméra ou bien c'est un chevreuil, un ours? C'est une des raisons, ouais. C'est pour ça.
Ouais, ben on va souvent voir ça là, lorsque les gens vont empâter pendant la chasse. On va se demander qu'est-ce qui va manger les appâts, puis parfois on va se rendre compte, exemple, qu'il y a beaucoup de ratons laveurs versus le nombre de chevreuils, exemple. Fait qu'avec la caméra, on va pouvoir bien définir aussi si c'est, exemple, beaucoup de chevreuils, beaucoup de femelles, beaucoup de veaux, ou si c'est des mâles qui vont venir voir nos appâts ou manger, ou vice-versa. Donc, ça nous permet de bien identifier qu'est-ce qui va être de passage devant nos appâts ou nos sentiers, peu importe où est-ce qu'on va positionner notre caméra, en fait.
C'est bon. Puis aussi, là, je pense à ça, mais pour avoir les heures de passage, pour dire, exemple, mon gros bas qui passe toujours à 5h15, exemple,
hein, ça peut être... Oui, bien, exemple, tu sais, on parle un peu de patronage quand on va comptabiliser les heures, tout ça. Ça va être, dans le fond, de cibler nos heures de chasse qui vont être les plus efficaces selon les passages des gibiers. Si on voit que le matin, on n'a pratiquement pas de passage sur notre caméra, mais parfois, on va être mieux de pas aller se positionner, exemple, dans nos stands, nos miradors, pour pas aller mettre trop d'odeur le matin, étant donné qu'on sait qu'on a très peu de passages. On va se concentrer, exemple, sur la passe du soir, où est-ce qu'on a plusieurs passages, exemple, à partir de 3-4 heures l'après-midi.
Ben, c'est logique. Je vais te conter une anecdote. Moi, ça fait, mettons, à peu près 15 ans. J'avais été invité par un de mes chums à aller à la chasse au chevreuil. Puis j'arrive au site avec mon chum, puis son père était là avec un de ses chums aussi. Une histoire classique. Uh-huh. On arrive là le vendredi soir, puis là, le père à mon chum, il se dépêche, il s'en prend de 4 roues, puis il décolle dans le bois, puis il faisait noir. Je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Fait que là, on attendait à roulotte, tu sais, puis on se préparait pour le lendemain matin. Là, il arrive avec 4-5 cartes SD. Il dit, bon, on va checker ce qu'on a. Mais tu sais, moi, j'étais pas encore familier à ça. Fait que dans le fond, lui, il allait faire sa tournée pour voir ce qu'il y avait sur les sites. Là. C'est là, ça a pas été long que j'ai compris. Regarde, Sam, ça fait toute une différence, les cartes, là. On peut s'y fier, ça donne une bonne idée, là.
Ouais, c'est clair. C'est là, on parle à fond de la récolte et des cartes mémoire. Là, c'est souvent les gens vont même se mettre des périodes prédéfinies pour aller faire la récolte de leurs cartes mémoire pour éviter de déranger le spot, pour être régulier puis pas déranger le gibier. Mais tu sais, là, ça va m'apporter sur un autre point là maintenant qu'on est rendu un peu plus avancé technologiquement. Tu sais, on avait les caméras régulières dans lesquelles qu'on enlevait les cartes mémoire puis tout ça, puis on faisait notre run régulière soit aux semaines ou aux journées pendant la chasse. Mais maintenant, avec les caméras cellulaires, là, ça, ça a changé la donne aussi, là, concernant la récolte des images. Là. Je sais pas si toi, t'étais un utilisateur aussi de ce genre de caméra-là maintenant. Là.
Oui, oui, j'ai goûté à ça. Puis, mais juste pour préciser, mettons qu'on parle de la standard comme il y a 15 ans, mais qui existe encore.
Ouais.
Elle va prendre quoi? Elle prend les vidéos, les photos, le bruit. Pour donner une idée, là, une caméra de base, ça prend quoi comme information?
Ben, dans le fond, à la base, le principe de base de la caméra, là, on va parler vraiment, chaque caméra, pour faire un déclenchement, ça nous prend un mouvement de chaleur. Fait que, quand on a un mouvement de chaleur qui va être devant la caméra, ben là, certaines caméras vont nous donner l'option de prendre des photos, soit des vidéos. Puis après ça, ben, on a les microphones qui sont optionnels sur certains modèles. Donc, dépendamment, si on va avoir une autonomie de batterie, exemple, qui est plus durable, on pourrait fonctionner seulement en mode photo. Mais si le but est d'obtenir un peu plus d'informations, on pourrait la mettre en mode vidéo. Là, c'est sûr qu'on va voir plus de comportement animal en mode vidéo. Par contre, on va prendre plus de piles à ce moment-là parce que la caméra va travailler beaucoup plus fort. Puis après ça, ben si on est capable d'avoir en option le microphone pour avoir des sons, c'est encore mieux. Parce que souvent, pendant la période de chasse à l'orignal, on va être capable d'entendre vraiment les orignaux se coller entre eux autres. Ça, c'est vraiment plus intéressant là, comme vidéo puis observation qu'on peut faire. Là.
OK, très bon exemple. Fait que dans le fond, la caméra standard, on a notre carte SD qui prend la mémoire. On peut collecter les cartes, aller à la maison, mettre ça dans l'ordinateur. On voit l'heure, la date, les photos ou les vidéos. Ou bien des petits adapteurs aussi qui existent à Star qu'on peut mettre après notre cellulaire. Puis directement à la caméra, on peut sortir la carte, mettre la carte dans l'adapteur puis regarder sur le cellulaire. Si je me trompe Exactement. Pas, c'est pas mal ça, ouais, dans le standard. Puis là, on parlait de cellulaire que j'ai goûté, comme plusieurs personnes aussi. Parle-moi de ça, c'est quoi ses avantages? On est ailleurs pas mal, niveau indépendance puis technologie, là.
Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, la première chose à prendre en compte, là, quand on va aller vers une caméra de type cellulaire, c'est vraiment s'assurer qu'on a accès au réseau, en fait, de téléphone cellulaire. C'est quand même parler un peu partout, là, les gens vont se tromper entre le Wi-Fi, qu'est-ce qui est satellite, qu'est-ce qui est cellulaire. C'est vraiment une caméra qui se connecte sur les réseaux cellulaires. Fait que c'est l'avantage qu'on a versus une caméra standard, parce qu'on a du réseau, mais quand on est en mesure de recevoir les photos directement sur notre téléphone cellulaire, tablette ou ordinateur, maintenant, il y a des serveurs puis des applications qui permettent de recevoir tout ça à la maison chez nous sans avoir à se déplacer en forêt. Donc, c'est vraiment une économie de temps et de souvent d'essence là, pour les déplacements qu'on peut avoir avec ce type de caméra-là.
Hey, vraiment, là, je pense à mon chalet qui est dans Charlevoix, exemple. Moi, je suis dans la région de Portneuf. Je peux savoir ce qui se passe pratiquement en temps réel. Là. C'est vraiment bon.
Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de sécurité. Les caméras cellulaires sont utilisées aussi beaucoup pour la sécurité. Puis, pour la chasse, ben écoute, là, souvent, là, les chasseurs pour l'ours vont aimer ça, travailler avec pour voir si les appâts ont été touchés ou pas, même pour la trappe. La trappe, on va voir si rapidement, si on a un animal qui est pris dans un piège ou quoi que ce soit, ça nous permet de nous déplacer plus rapidement sur les lieux pour aller récolter l'animal au besoin là, s'il est pris dans un piège. Là. Donc ça, c'est vraiment aidant de ce côté-là.
Ah oui, tout à fait. Là, j'avais pas pensé à cette option-là aussi, c'est vrai. Puis il y en a des gens qui ont des grands territoires, puis ils vont se mettre 2, 3, 4, 5 caméras cellulaires. Puis là, à ce moment-là, si les caméras sont toutes placées dans des endroits stratégiques, ils peuvent vraiment valider. Exemple, à 7h02, le bas qui passe à la caméra 1, exemple. 7h09, il est rendu à la caméra 3. Fait que quelqu'un qui veut pousser la chose, là, il peut avoir vraiment un pattern de la trail là, tu sais, que le gibier va prendre.
Oui, puis ce qui est intéressant, dans le fond, avec la caméra cellulaire, c'est qu'on, nous, en tant qu'utilisateurs, on peut réagir beaucoup plus vite au positionnement de nos caméras. Donc, exemple, si on commence dans le temps des salines au printemps, on évalue un peu les sentiers des orignaux, exemple. On va voir qu'on a des passages réguliers. 1, 2, 3 caméras, OK. On voit pas mal sa trail, on est capable de l'évaluer. Si on voit, mettons, que pendant 2, 3 semaines, on n'a aucun passage sur cette caméra-là, bien là, peut-être qu'on n'est pas dans le bon secteur pour le printemps, l'été. On peut déplacer notre caméra plus rapidement versus une caméra régulière qu'on aurait été dans le bois, on aurait laissé là 2, 3 semaines. Quand on aurait ramené la carte à la maison, on aurait retourné dans 2, 3 semaines. Fait que là, on aurait perdu un mois et demi qu'on n'aurait pas pu déplacer notre caméra parce qu'on n'aurait pas pris connaissance encore de nos images. Parce que la caméra cellulaire, au fil de l'été, vous allez voir vos photos, tout ça. Vous allez pouvoir prendre la décision de déplacer votre caméra au fil du temps pour être beaucoup plus efficace sur le terrain pour la détection.
Un gros gain de temps. Puis ça, c'est sans oublier des fois, un autre exemple. Je place ma caméra, je suis certain que je suis bien aligné, mais non, je vise trop vers le sol ou trop vers la gauche, puis que j'ai pas des bonnes photos du gibier quand il passe. On élimine ça aussi là par le fait du cellulaire, on le voit tout de suite. Oh, ma caméra est mal placée, oui. Exemple.
Ouais, puis exact. Puis souvent même, on va parler un peu de nos amis les ours. Les ours vont venir déplacer ta caméra, une caméra régulière, tu le vois pas avant d'aller faire un prochain passage sur le terrain. Tandis que la caméra cellulaire, oh, tu vas avoir une photo d'ours, tu vas voir la caméra est déplacée ou elle a arrêté de fonctionner, tu vas savoir que soit arracher l'antenne, arracher la batterie. Fait que ça va toi te permettre en tant qu'utilisateur de retourner sur le terrain, replacer tes choses pour être encore en marche, puis une fois plus efficace versus une caméra régulière.
Ouais. C'est comme évident qu'il y a juste des avantages.
Ben en fait, il y a quand même un désavantage. Ce qui se ramène, c'est au coût de l'abonnement. Donc, chaque caméra cellulaire a besoin d'un coût d'abonnement qui normalement se situe entre 5 et 15 $ dépendamment du nombre de photos qu'on va prendre pour l'abonnement. Mais c'est vraiment le désavantage, c'est le coût mensuel qui revient avec ce type d'appareil-là. Mais écoute, on sauve tellement en économie d'essence, en efficacité, que je pense que ça vaut la peine de se procurer ce type d'appareil-là versus une régulière. Malgré que c'est pas possible partout, quand on n'a pas de réseau cellulaire, il faut vraiment aller vers du régulier. Ou il y a encore du monde qui aime ça, faire la tournée, prendre la balade dans le bois puis aller chercher nos cartes. Ça nous permet quand même de détecter les signes en marchant versus une cellulaire qu'on voit un peu moins en forêt.
Tu as bien raison. Faut pas dénigrer aussi, c'est cette bonne vieille habitude de faire la run des cartes, là. Ça fait partie de la routine de certains chasseurs. Tu as bien raison, mais il y en a pour tous les goûts, en tout cas, là.
Oui, exactement. Il y en a tout pour les goûts. Puis je te ramène aux caméras régulières. Une belle activité moi, que j'ai faite avec mes enfants, c'est qu'au début de l'année, on a chacun une caméra. On va positionner les caméras avec les enfants. Puis les enfants me demandent pour aller faire la tournée en forêt, pour aller récolter leurs images à eux. Donc, on fait un concours d'images sur l'année que les enfants vont positionner leurs caméras en forêt. C'est vraiment une belle activité familiale à faire pour les chasseurs. Puis initier leurs enfants aussi au phénomène de la caméra. Je pense que ça vaut la peine de le faire.
OK, c'est parfait, Mathieu. On va aller à la pause parce que là, on a beaucoup de stock à parler. Au retour de la pause, on va parler un peu de comment s'active la caméra, les accessoires, si tu as des trucs à donner aux gens. Donc, on revient dans 2 minutes.
Chasse et pêche dans la peau, édition radio.
De retour, on continue avec Mathieu. Mathieu, tout à l'heure, tu as parlé un petit peu d'infrarouge et de chaleur. Donc, comment ça s'active? Comment ça travaille une caméra la nuit pour pouvoir prendre ses photos, pour pouvoir filmer? Peux-tu me dire comment ça fonctionne? Moi, j'entends les mots infrarouge, des flashs qui détectent ou qui activent la caméra. Comment ça fonctionne, le déclenchement pour prendre une photo ou une vidéo?
Oui, ben dans le fond, le type de déclencheur, c'est un passive infrared radiation en anglais. Ce que ça fait, c'est que ça va détecter une masse de chaleur. Lorsque cette masse de chaleur-là va bouger, ça va causer un déclenchement à la caméra en tant que telle. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va prendre des photos. Donc, exemple, si je bouge de quoi qui est de même température, je n'aurai pas de déclenchement. Ça explique aussi par le fait même, quand il fait soleil dehors, qu'on a des forts vents, donc, écoute, on peut avoir des masses d'arbres aussi qui viennent chaud au soleil, qui vont bouger, qui vont faire déclencher. Donc, ça pourrait causer des faux déclenchements, mais habituellement, ça va être causé par un humain ou un animal qui est assez gros. Donc, une grosse masse thermique qui va bouger pour faire un déclenchement. Donc ça, c'est le principe de base des caméras de chasse qu'on voit partout sur le marché. Après ça, ben là, souvent, les distances de déclenchement, ça pourrait varier de 50, 80, 100 pieds, dépendamment, dans le fond, de la grosseur de la masse qu'on veut détecter. Il y en a qui vont être plus efficaces ou moins efficaces, dépendamment des types de caméras. On a la vitesse de déclenchement aussi qui peut varier parce que on n'a pas les mêmes ajustements sur les caméras pour définir l'image. Donc, tu as des caméras qui vont déclencher un petit peu plus vite, mais qui vont prendre un petit peu moins de temps pour ajuster leur qualité d'image, quand il y en a d'autres qui vont être un peu plus de type photo professionnel, qui vont prendre le temps d'ajuster les balances de couleurs, de lumière, pour prendre leur photo. Donc, c'est tout ce qui rentre en ligne de compte. Pour le déclenchement, la vitesse de déclenchement, on a les zones de déclenchement. On n'a pas toutes les mêmes zones de déclenchement pour les caméras. Il y en a qui sont plus larges, il y en a qui sont plus étroites. Donc, ça, souvent, c'est pas très, très indiqué sur les boîtes des caméras lorsqu'on les achète. Mais bien, un bon conseiller va être en mesure de vous conseiller sur la caméra, voir de quelle façon qu'elle peut bien couvrir votre zone de détection.
Lorsque c'est la nuit, parle-moi un peu des sources d'éclairage. Là, comment ça fonctionne là, pour la prise d'image?
Ben en majorité, dans le fond, on a 3 types d'éclairage. On a le LED infrarouge régulier qui date de plusieurs années. qui, lui, dans le fond, consiste à émettre une lumière rouge pour pouvoir avoir un résultat en noir et blanc de nuit. Après ça, tu as le LED noir qui est devenu de plus en plus populaire dans les dernières années, qui lui permet d'être beaucoup plus discret, donc le moins visible à notre œil à nous. Puis ça va te donner encore une fois là, un résultat en noir et blanc sur tes images de nuit. Puis après ça, tu as un autre type de LED qui existe, qui est maintenant le LED blanc, qui lui va te faire que vraiment comme une lumière blanche, mais qui va te permettre d'obtenir des images en couleur de nuit. Donc, c'est vraiment différent. C'est trois types d'éclairage, dépendamment notre utilisation, qui vont être pertinents à l'utilisation. Là.
OK. Il y en a-t-il un qui est plus commun que l'autre ou on voit les trois de manière pas mal similaire sur le marché?
Ben, les plus communs sont le LED infrarouge régulier puis le LED noir. Le LED noir, pour sa discrétion, souvent pour être plus discret pour les gibiers ou même pour la sécurité. Tandis que le LED infrarouge, lui, va être plus visible. Par contre, va te procurer un éclairage plus puissant.
OK. Un choix à faire.
Oui, exactement.
OK. J'aimerais ça qu'on parle un peu des accessoires, les sources d'énergie. Ça prend de l'énergie, pareil, avoir cette petite bête-là dans le bois. Là. C'est quoi les sources?
Majoritairement, dans le fond, toutes les caméras peuvent fonctionner soit avec des piles 2A alcalines, de type alcaline, que moi, personnellement, je vais recommander du printemps à l'automne pour éviter les températures en dessous de zéro parce qu'ils deviennent beaucoup moins performantes, ce type de piles-là. Après ça, on a les lithiums qui sont très efficaces au froid. On aurait même aussi les batteries rechargeables de type NIMH qu'on pourrait utiliser. Par contre, avec ce type de pile-là, pour faire attention, leur tension est beaucoup plus basse qu'une pile régulière. Donc, faut surveiller les tensions pour avoir un bon fonctionnement avec votre appareil. Ça concerne les piles internes de caméra. Souvent, quand on va avoir une utilisation un peu plus accrue là, de nos caméras, on va aller vers une source externe, dite soit solaire ou batterie externe. Je sais pas, toi, Samuel, tu travaillais avec de ces types d'alimentation-là pour ta caméra cellulaire ou tu étais seulement avec les piles internes?
Moi, j'étais avec piles externes. Pour le moment, je travaille avec les piles externes.
Okay. C'est quoi la raison pourquoi tu es allé, toi, travailler vers une pile externe?
C'est pour avoir moins souvent à gérer mes batteries, avoir peur que j'ai plus d'énergie quand c'est pas le bon moment.
Ouais, bon, exactement. Fait que souvent, quand on va aller vers une pile externe, c'est qu'on va vouloir augmenter notre capacité de batterie. Puis en plus, ce qui est le fun, que ce soit 6 volts ou 12 volts, ce type de batterie-là est rechargeable. Donc, à long terme, si on est vraiment gagnant pour versus des piles qu'on va remplacer à l'intérieur de la caméra. Après ça, ben, ce qu'on peut additionner à ce type de batterie-là, c'est souvent des panneaux solaires. Donc, ça, on va éviter d'avoir à se déplacer pour faire un rechargement à quelques mois ou annuel. Le panneau solaire, souvent, va nous maintenir à l'année sans problème. Puis après ça, ben là, on a d'autres types de caméras maintenant qui sont sorties sur le marché qui viennent avec soit des blocs lithium à l'intérieur ou des piles lithium rechargeables qui nous permettent de brancher directement un panneau solaire dessus sans avoir de batterie externe comme on parlait tantôt de 6 volts ou 12 volts. Donc, tout dépendamment de notre utilisation, c'est vraiment considéré d'avoir soit une source solaire ou une batterie externe quand on fait une utilisation un peu plus accrue ou caméra cellulaire.
OK, c'est bon. Fait que c'est à considérer au moment de l'achat, là, faut y penser. Et à moins qu'on soit un vieux de la vieille, on sait déjà ce qu'on veut, mais quelqu'un qui songe à aller vers le cellulaire, c'est quelque chose à vraiment penser là, avant de... Mathieu, en fait, non. Quelqu'un peut commencer avec la batterie standard, puis il va au moins savoir qu'il y a d'autres options s'il veut améliorer sa condition suite à une déception ou une situation X.
Oui, l'important, c'est vraiment d'être conscient que normalement, on recommande une source externe pour une caméra cellulaire. Mais oui, c'est possible de fonctionner sans en avoir une, mais souvent, on va être limité un peu sur notre durée de vie de la caméra en tant que telle au niveau des batteries. Donc, c'est juste au moins avoir un bon conseiller qui va lui mentionner à la personne, écoute, vous avez l'option d'être plus discret, d'y aller seulement avec les piles internes ou d'aller vers une source externe qui va te donner une meilleure autonomie. Souvent, les conseillers en magasin vont être capables de faire cette recommandation-là. Après ça, ben le client, lui, est informé de la situation, peut faire son choix. Mais oui, si on parle d'une caméra cellulaire, souvent, il faut considérer le coût d'achat aussi d'une source d'alimentation externe pour prolonger l'autonomie de cette caméra-là.
Les cadenas, il y a des gens qui vont mettre un cadenas de sécurité, sont dans les coins, peut-être qu'il y a beaucoup de chasseurs, la pression de chasse est élevée. Ça existe, ça, dans les accessoires?
Oui, on a des cadenas. Souvent, celui le type le plus utilisé, ça va être un type de cadenas qu'on appelle Python. qui est comme un câble qu'on peut insérer à l'intérieur là, de la caméra puis venir serrer après l'arbre. Ça fait comme un câble d'acier dans le fond qu'on vient vraiment attacher après l'arbre. C'est le type de cadenas qu'on va souvent utiliser là, pour verrouiller la caméra un peu, la rendre un peu plus sécuritaire. Là.
OK. Là, moi, je pense tout de suite à un accessoire que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques années. C'est un support à caméra, c'est une vis, dans le fond, que je peux visser dans mon arbre puis donner l'angle que je veux. Ça, j'adore ça, parce que sinon, à la base, ça vient avec une sangle qu'on attache autour de l'arbre. Moi, j'adore les supports à vis, là. Qu'est-ce que t'en penses de ces supports-là?
Ben, en fait, le support à vis, l'avantage, c'est qu'il nous permet vraiment de bien s'aligner versus une sangle où qu'on va venir mettre un bout de bois à l'arrière de la caméra pour essayer d'avoir le bon alignement pour notre image. Tandis que vraiment, le support de fixation de la caméra, lui, on va pouvoir vraiment aller chercher tout de suite notre bas d'angle. Puis je vais même t'apporter sur un autre point. Maintenant, on a des supports de fixation qui se fixent en hauteur, qu'on peut aller mettre, installer et désinstaller la caméra à partir d'une perche, là. Donc, okay. On n'a même pas besoin de grimper dans l'arbre. On prend une perche, on installe, on réinstalle avec ce support de fixation-là. Donc, oui, les différents types de supports de fixation qui sont disponibles sur le marché qui peuvent vraiment être efficaces.
C'est bon. Puis là, on parle de positionnement de la caméra. As-tu des trucs à donner? Parce que faut-tu être à l'horizontale? On peut-tu avoir un certain angle si on est plus haut pour avoir une activation optimale là, quand le gibier va passer?
Bien, c'est sûr que le fonctionnement optimal de la caméra, là, c'est vraiment quand elle va être à l'horizontale. C'est là qu'on va avoir le plus grand champ de détection possible. Puis je dirais, quand on l'installe pour le chevreuil, on va essayer de garder tout le temps à la hauteur des hanches pour avoir la bonne hauteur du gibier. Puis à l'orignal, on se met souvent à la hauteur du torse pour être un petit peu plus haut pour l'orignal. Si jamais on décide de s'installer en hauteur, ben là, il faut prendre en compte là, que la caméra là, va pointer vers le sol avec un angle. Donc, on vient réduire quand même beaucoup notre champ de détection. Ça va faire un champ de détection qui est beaucoup plus ciblé. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment juste de savoir si nos sentiers qu'on veut détecter ou nos appâts sont bien situés dans notre image pour avoir une détection qui est vraiment ciblée à ce point précis-là versus une installation à l'horizontale vers le sol qui va nous permettre de détecter beaucoup plus grand de zones de couverture, en fait. Là.
Le temps file, on a du fun, on a du bon contenu, puis là, je me rends compte qu'on arrive à la fin de l'émission. Commence à penser à une demande spéciale, et puis, aurais-tu un conseil à donner aux gens en terminant?
Oui, bien, en fait, le meilleur conseil, là, c'est d'aller voir un bon conseiller en magasin puis d'avoir des bonnes informations en main avant de faire un achat. Et surtout, si on a des problèmes, c'est de ne pas hésiter à contacter l'équipe de support technique, souvent des compagnies, les chats en ligne. Souvent, ils vont être là pour vous épauler puis vous aider à comprendre votre produit pour être vraiment être capable d'apprécier le produit que vous avez acheté. Je pense que c'est le plus important. Puis vite comme ça, là, une petite demande spéciale, là, j'aimerais ça, buy and buy de Camp. Là. Ça, je pense que ça serait bien.
Hey, parfait, j'ai ça en stock. Mathieu Caron, président d'Aerablo Équipement, je te remercie beaucoup. Puis on y va avec ta demande spéciale. Puis je te souhaite une très bonne saison. Merci.
Driving through West Virginia, and I've seldom been thinner. With that chip on my shoulder, and this past year I got so much older. Looking back over my life, spent the most of it tongue-tied. I wish I'd had more time listening to you speak your mind. Now I'm thinking about it every day on my mind a typical way. Are you a life force? Thinking about it every day on my mind a typical way. Are you a life force? Drinking coffee black as iron. Couldn't be much higher without falling out of my chair. I've been so numb for thinking about her every day on my mind at typical ways. Are you a life force? Thinking about her every day on my mind at typical ways. Are you a life force? And it's so easy to be blinded by the light, to feel lonely in the night. And it's blowing in the breeze, babe. I got dust in my eyes and rust in my mind. I'll be home come next spring. Won't you say you love me later, by and by? Spent the most of it tongue-tied, pulling my belt tight. It's just me and the stars tonight. Two fingers and a tight line keep my head above the alpine. Just wish I'd spend more time listening to every day on my mind a typical way. Are you a life force? Thinking about it every day on my mind a typical way. Are you a life force? Thinking about it every day on my mind a typical way. Are you a life force? Thinking about it every day
était là, chers amis. Aujourd'hui, on a parlé de caméras de surveillance. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes différentes plateformes médias, c'est-à-dire Facebook, YouTube, Chasse et pêche dans la peau. Allez vous abonner pour ne rien manquer. Et Spotify pour réentendre les émissions. Vous êtes toujours les bienvenus chez nous et je vous dis à la semaine prochaine.